Une conversation à la table. Les quatre personnages, Françoise, Justin et Madame et Monsieur de Nedelec, sont assis à table dans la salle à manger de l'appartement des Nedelec. De temps en temps, Yvonne, la bonne, apporte les différents plats.
J'espère que vous aimez les écrevisses. Nous les mangeons souvent comme hors-d'œuvre.
C'est la première fois que j'en mange. Comment faut-il s'y prendre?
Il faut casser la carapace, comme ceci. Puis vous sucez.
Mais c'est très bon.
Vous avez oublié de mettre les cuillères à soupe.
Mais c'est tout un travail pour manger des écrevisses.
Vous pensez, la prochaine fois, on vous donnera des artichauts. Et vous verrez ce que c'est que de travailler.
Il faut dire que Françoise n'aime pas les artichauts. Par paresse, je suppose.
Maman, tu vas nuire à ma réputation auprès de notre visiteur d'outre-mer. Il croit que je suis une jeune fille très sérieuse.
Alors, il faudrait le détromper au plus vite. Henri, veux-tu nous couper du pain? Attention, Henri, tu vas te salir.
Du pain, Justin? Oui, monsieur, merci. Le pain français est ma plus grande joie. Les miches sont parfois longues comme des bâtons, parfois grosses comme celles que vous avez là. Et il y a autant de goûts différents qu'il y a de formes différentes.
Cela vient de ce qu'il a été cuit par le boulanger du coin, et non dans une grande usine comme chez vous. Je me rappelle que ce qu'on a voulu me servir comme pain à New York était détestable. Faire le pain est un art en France, tout comme la fabrication du vin ou des fromages. De même que la gastronomie en général est très développée chez nous.
En gastronomie, les Français ont des habitudes enracinées, pour ne pas dire des préjugés. Je me rappelle les protestations d'un Français à New York à qui on voulait faire manger des gaufres pour le petit déjeuner.
Manger des gaufres pour le petit déjeuner? Je savais bien que vous mangiez des œufs sur le plat et du petit lard au petit déjeuner, mais manger des gaufres, ça me dépasse.
Je suis sûr que vous n'aimeriez pas non plus la salade pour dames, comme on la prépare en Amérique, c'est-à-dire la laitue nature avec un petit édifice de fruits, de fromage à la crème, de noix, etc. Le tout inondé de mayonnaise.
J'avoue que la seule idée de ce mélange me fait mal au cœur. Il n'y a rien à dire. Les Français n'aiment pas mélanger le salé et le sucré.
Justin, voulez-vous encore un peu de Bordeaux?
S'il vous plaît, monsieur. Mais ce poulet froid est délicieux.
C'est le cas de le dire. C'est la sauce qui fait le poulet. Savez-vous le nom de cette sauce?
Non, madame.
Cela s'appelle aioli. J'espère que ce n'est pas trop fort pour votre palais si habitué au sucre.
J'ai fait renouveler mon palais depuis mon arrivée à Paris. J'ai maintenant une marque française.
Vous avez lu les journaux ce soir? Que pensez-vous de ce coup communiste?
Je ne sais pas ce que je dois en penser, car tous les journaux parisiens se contredisent et se lancent des injures. L'Humanité dit que le peuple vient d'empêcher un coup fasciste. Le Figaro prétend qu'encore une fois, la démocratie a été trahie. On ne trouve guère dans les journaux français de renseignements objectifs, rien que des articles tendancieux.
J'avoue que je suis de votre avis. C'est pour cela que j'achète souvent le New York Herald, qui est le seul journal bien renseigné à Paris.
Pourquoi la presse est-elle si mal organisée?
Je crois que c'est d'abord à cause de la formule même du journalisme français. On a tellement insisté sur la liberté de la presse, c'est-à-dire sur le droit d'exprimer les opinions, que nous avons fini par avoir presque uniquement des journaux d'opinion. Le journalisme objectif a sombré sous les opinions diverses. On peut dire qu'il n'a jamais existé.
Ce qui m'a frappé, c'est le format réduit de vos journaux.
La crise du papier explique en ce moment le format réduit. Mais vous savez que le journal parisien d'avant-guerre ne dépassait pas 6 à 8 pages.
Pourquoi n'a-t-on pas eu l'idée de fonder un grand journal d'information comme nous en avons chez nous en Amérique.
Je crois d'abord que c'est une question d'habitude. Comme le français moyen a l'habitude des journaux à 6 pages, l'idée de lire un journal de 40 à 100 pages lui répugnerait, même s'il y avait le papier nécessaire à la publication d'un tel journal. De plus, le français tient beaucoup à ce qu'on lui donne des opinions. Il aime raisonner. L'idéal serait d'avoir pour chaque Français un journal personnel. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit, car on n'a pas besoin de capitaux énormes comme chez vous pour fonder un journal.
Avec un tel système, avez-vous réellement la liberté de la presse?
Dans une très large mesure, plus que chez vous, où il y a, par exemple, beaucoup de grandes villes ayant un seul journal. Comment voulez-vous qu'il y ait de la liberté de la presse dans ces conditions? Avant la guerre, beaucoup de journaux français, il est vrai, vivaient de fonds secrets. Quelques-uns même de ces fonds étaient de sources allemandes. Mais avec la nouvelle loi de la presse, c'est devenu impossible maintenant.
Pardon, je crois que j'ai laissé emporter mon couteau encore une fois.
Voulez-vous apporter un autre couteau pour Monsieur Lambert? Il faudrait vous exercer pendant 5 minutes par jour à mettre votre couteau sur le porte-couteau à côté de votre assiette. Yvonne prétend qu'elle n'y peut rien et qu'elle vous enfoncerait en y touchant.
J'apprendrai peut-être un jour. Mais vous changez si souvent les assiettes et les fourchettes et cuillères que je me demande pourquoi le couteau fait exception.
C'est peut-être qu'au Moyen Âge, on avait besoin du couteau comme arme de défense. Il y a de ces habitudes qui s'expliquent difficilement.
Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter le dessert tout de suite? Nous allons être en retard pour le théâtre.
Bien sûr. Quelle pièce allez-vous voir ce soir?
Françoise m'emmène voir Huis clos au Vieux Colombier.
J'espère que vous pourrez me dire, en revenant, ce que c'est que l'existentialisme. Ce n'est pas la peine de lire les articles sur l'existentialisme. On n'y comprend rien et les écrivains non plus.
Je me suis attaqué à L'être et le néant de Sartre. Mais l'ouvrage m'a opposé une si forte résistance que j'ai dû l'abandonner au milieu du premier chapitre.
Vous verrez que Huis clos n'est ppas une pièce très gaie. Il y a 3 personnages enfermés pour l'éternité dans un appartement meublé. Ce sont des âmes damnées qui finissent par se torturer et se dévorer les unes les autres. Il y a un personnage qui dit « l'enfer, c'est les autres », ce qui résume la partie existentialisme de la pièce.
Ne pourrait-on pas résumer l'existentialisme en disant que c'est le problème de l'existence ramené à l'échelle individuelle?
Il me semble que Gide disait la même chose dans un style plus classique.
Oui, on dirait que la plupart des écrivains existentialistes se font un malin plaisir à estropier la langue française. Mais quant à Sartre, l'auteur de Huis clos, c'est différent.
Et vous verrez le Vieux Colombier, ce petit théâtre sans prétention de la rive gauche, où Jacques Copeau, avec ses brillants collaborateurs de la Nouvelle Revue Française, a, pour ainsi dire, créé le théâtre français contemporain.
N'oublie pas, maman, qu'il y a aussi Lugnepo et Jouvet, mais cela nous entraînerait trop loin. Justin, il va falloir nous mettre en route tout de suite, car nous devons changer au Châtelet, ce qui allonge le trajet.
Alors, au revoir, amusez-vous bien.
Par une transposition proscrite par les règles d'Aristote, mais que le cinéma moderne utilise sans vergogne, nous retrouvons nos 2 jeunes gens qui attendent sur le quai de Saint-Germain-des-Prés, sous l'écriteau « Direction Porte de Clignancourt ».
Alors, c'est sûr que vous partez demain?
Comme je vous l'ai dit, je suis censé suivre les cours de vacances à Tours. Ce n'est qu'à ce prix-là que j'ai pu persuader mes parents de me laisser passer l'été en France.
Avec votre connaissance du français, il vaudrait mieux faire carrément une licence à la Sorbonne.
D'accord, mais cela n'est pas possible pendant l'été. Il faudra que je revienne une autre fois dès que j'aurai fini mon bachot américain. J'ai encore une année de collège devant moi.
Quoi? Vous êtes encore au collège?
Cela n'a rien d'étonnant. Les termes collège et université sont synonymes ou presque aux États-Unis. Le collège n'est pas une institution secondaire comme en France. Après l'école secondaire, l'étudiant américain passe 4 ans au collège. Si un étudiant français ayant déjà son baccalauréat entre au collège chez nous, il passe en 3e année.
Alors le bachot américain est l'équivalent de la licence française, qui prend généralement 2 ans.
Au contraire, les études en France sont plus avancées et on considère que la licence est l'équivalent du grade américain suivant la maîtrise.
Que d'histoire! Mais ce n'est pas avec tous ces diplômes-là qu'on apprend le langage courant.
Cela est vrai. C'est pourquoi je vous suis très reconnaissant de m'avoir reçu si cordialement. Je ne me rendais pas compte quand je me suis inscrit à cette organisation pour la correspondance internationale que je serais reçu à bras ouverts dès mon arrivée à Paris.
Une jeune fille qui se respecte aurait hésité à courir au-devant d'un jeune homme qu'elle connaît seulement par correspondance. Une pareille considération ne m'aurait pas arrêté, vous devez vous en douter. Mais j'avoue que j'ai été tout de même rassurée en constatant pendant notre première course en taxi que vous étiez telle que je vous avais imaginée.
Je voudrais bien connaître ce portrait moral que vous aviez fait de moi.
Vous êtes bien indiscret. Je vous dirai seulement que vous êtes plus sympathique que certains Américains qui froissent toutes nos habitudes françaises. Vous nous comprenez. Je suis sûre que nous serons toujours de très bons amis.
J'ai si peu fréquenté la jeunesse française que je ne sais pas s'il serait présomptueux de vous demander la permission de vous tutoyer.
Comme les Américains vont vite, mais je veux bien. Cela te donnera l'occasion de mieux apprendre tes verbes. Mais voilà notre train. En tant que Français assimilé, tu n'oublieras pas cette fois que la fermeture de la porte est automatique.